Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, à quoi servent les révélations sur les paradis fiscaux ? À en juger par la quantité de réactions collectées par les médias depuis plus de 24 heures autour des désormais fameux Panama Papers, on peut dire sans crainte d'exagération que l'onde de choc est mondiale. À travers les activités d'un seul cabinet de conseil, le panaméen Mossack Fonseca, c'est tout un système de dissimulation d'argent au fisc qui est mis au jour et qui semble ne devoir épargner les ressortissants d'aucun pays. Avec une réactivité rarement observée, plusieurs d'entre eux ont décidé d'agir. La France ouvre une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. L'Espagne, le Brésil, l'Autriche, le Panama même, tout juste réintégré dans la liste des paradis fiscaux, promettent de donner des suites judiciaires à cette affaire. Le Premier ministre islandais, lui, vient d'annoncer qu'il démissionnait. Sur le plus long terme, quel peut être l'impact de ces révélations ? Les Swiss Leaks et autres LuxLeaks, scandales fiscaux impliquant la Suisse et le Luxembourg, ont sans doute permis à la régulation internationale d'avancer, mais sans jamais parvenir à enrayer le phénomène. Alors à quoi servent les révélations sur les paradis fiscaux ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités ce soir. Pascal Saint-Amand, bonsoir. Vous êtes le directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. À ce titre, vous êtes en quelque sorte le négociateur pour l'OCDE du cadre réglementaire de lutte contre les paradis fiscaux. Enfin, je ne sais pas si c'est une présentation qui
vous convient. C'est très technocratique, hein. C'est juste être en charge de la lutte contre les paradis fiscaux pour le compte du G20 et des pays membres de l'OCDE.
Bah voilà, vous l'avez dit beaucoup plus simplement que moi. Pour discuter avec vous ce soir, Manon Aubry, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du plaidoyer justice fiscale et inégalité à Oxfam France. Oxfam qui est une des ONG engagées dans la lutte contre les paradis fiscaux et qui a publié un rapport en mars dernier avec le CCFD et le Secours catholique. Rapport intitulé « Sur la piste des banques françaises dans les paradis fiscaux ». On a vu avec les nouvelles révélations aujourd'hui autour de la Société Générale que voilà, c'est un rapport qu'on peut évidemment relire aujourd'hui. Et puis notre troisième invité, c'est Antoine Payon. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Journaliste, grand reporter au journal La Croix. Vous venez de publier aux éditions du Seuil un ouvrage intitulé Résistance. Et c'est chez le même éditeur qu'était paru un de vos précédents ouvrages. C'est 600 milliards qui manquent à la France. Alors je voudrais vous poser une même question à tous les trois pour commencer cette discussion. Y a-t-il des choses que vous ne saviez pas et que vous avez découvert en lisant les articles publiés par le journal Le Monde et par les autres journaux de ce consortium? Pascal Saint-Amand.
Ah ben dans le détail, oui, par définition, mais sur le principe, hélas, non. Les noms et les personnes, non, on ne le savait pas, même si pour certains, on pouvait deviner. Mais là où il n'y a pas de surprise, en fait, c'est que vous avez une concentration du mauvais offshore. Il n'y a pas vraiment de bon offshore, mais en tout cas, là, des choses les plus obscures dans une juridiction, et ce n'est pas un hasard. Ça fait 2 ans qu'on dit que Panama est la juridiction qui oppose le plus de résistance au mouvement vers plus de transparence, qui s'est engagée en 2008 et qui a fait, je crois, de vrais progrès. Et Panama cumule tous les inconvénients. Ils ne sont pas engagés à faire de l'échange automatique de renseignements. Ils traînent les pieds sur l'échange à la demande. Et ils n'ont pas signé un instrument juridique qui permettrait de faire ça. Donc, pas de surprise que ça se passe à Panama.
Donc, des noms, mais pas de surprise que ça se passe à Panama et pas de surprise sur la révélation de ce système-là. Manon Aubry, c'est aussi votre réaction ?
Pas de surprise non plus sur le système. Ça ne vient malheureusement que confirmer ce que l'on dénonce depuis un certain nombre d'années et ce qui se répète en fait d'un scandale à l'autre. En revanche, un point sur lequel je me permets d'insister, on parle beaucoup du Panama parce que la société Mossack Fonseca est domiciliée au Panama, mais en réalité ce dont il est question dans ce scandale c'est, ce sont 21 paradis fiscaux dans lesquels ont été créées des sociétés écrans. Et le nombre...
Voilà, les sociétés elles ne sont pas créées seulement au Panama. Hein.
Exactement, donc la société est panaméenne, mais elle aide à la création de sociétés écrans dans 21 paradis fiscaux parmi lesquels notamment les îles Vierges britanniques et Hong Kong. Donc cela révèle l'ampleur du système fiscal, l'ampleur des lacunes du système fiscal international actuel et qui dépasse largement le Panama.
Est-ce que ça le révèle avant tout au grand public, Antoine Payon, mais pour ceux qui travaillent sur ces questions-là, ça confirme, on va dire, ce qui était peut-être davantage que des présomptions ?
Alors pour les spécialistes, il n'y a même pas besoin de confirmation. Le Panama est dans le collimateur de tout le monde judiciaire depuis longtemps, bien entendu y compris des experts universitaires en matière de droit international. Il n'y a aucune surprise sur le Panama. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est d'avoir là maintenant des quasi-preuves que des personnalités politiques, alors là c'est du monde entier, mêlent leurs avoirs avec ceux de la criminalité organisée et parfois la pire. Panama, on y retrouve à travers le Panama, parce que il est vrai de dire que c'est à partir du Panama que sont créées des sociétés écrans dans beaucoup d'autres paradis fiscaux. Eh bien, à partir du Panama sont blanchis l'argent de la cocaïne, l'argent de la drogue, des trafics les pires, les trafics clandestins d'armes, et que repartent ensuite à partir de toutes ces sociétés écrans, ou de la gestion de ces sociétés écrans, l'argent qui permet de corrompre, l'argent qui permet d'acheter des matériels illicites, l'argent qui permet de semer le chaos dans notre monde. Donc il y a la problématique, bien sûr, de ce qui entre au Panama, de ce qui est géré à partir du Panama, un cabinet parmi d'autres. Mais c'est la vraie problématique, c'est quel usage cet argent, de quel usage est fait cet argent sur nos territoires, sur les territoires du monde entier.
Et vous diriez que c'est le mérite de cette enquête, justement, de pointer le circuit, justement, de cet argent qui est placé dans ces sociétés offshore.
Ça permet, oui, de voir quand même plus précisément les circuits, parce que là, on a les cascades de montage. Hein. Il y a plusieurs sociétés qui se gèrent les unes les autres. On le voit sur les cas des affaires de Monsieur Balkany, des affaires de Monsieur Cahuzac, de façon très, très spectaculaire. En même temps, ce qu'on voit, c'est la proximité avec la gestion faite par certaines banques, mais la gestion faite par aussi des groupes criminels. Alors, ça paraît pas de façon flagrante encore pour l'instant pour les groupes criminels, mais on sait que les groupes criminels utilisent les mêmes opérateurs.
Je crois que c'est un point qui est très important, parce que quand il y a le voile du secret qui s'oppose, et toutes ces sociétés offshore, ça peut être des sociétés, ça peut être des trusts, ça peut être différents véhicules juridiques, mais ils permettent de faire toutes les formes de criminalité financière, en fait. La fraude fiscale n'étant qu'un aspect, et finalement pas le plus grave, même si c'est très grave en réalité, mais vous avez du blanchiment d'argent, vous avez du financement du terrorisme, vous avez de la corruption, vous avez de la fraude fiscale, et tout ça est mêlé. C'est pourquoi il faut lutter tous ensemble, c'est-à-dire les autorités de blanchiment, de lutte contre le blanchiment d'argent, les procureurs financiers et autres, il faut lutter contre le voile de l'opacité, de façon à ce que l'on puisse connaître les bénéficiaires effectifs de tous ces véhicules juridiques.
Et est-ce que la presse, justement, est utile pour lutter contre cette opacité en mettant, par exemple, sur la place publique des noms de dirigeants politiques? Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est assez large. Hein. Il y a le président d'Ukraine, Petro Poroshenko. Il y a le roi d'Arabie Saoudite, Salman Al-Saoud. Il y a le premier ministre, enfin, je devrais dire l'ancien premier ministre islandais, puisqu'il a annoncé qu'il avait démissionné, Sigmundur David Gunnlaugsson. On voit que c'est quand même extrêmement large. Est-ce que, pour quelqu'un comme vous, Pascal Saint-Amand, donc, qui gérait ces questions de lutte contre les paradis fiscaux au sein de l'OCDE, la presse est utile à travers ces révélations, justement, et à travers les noms, notamment, qu'elle met sur la place publique?
La réponse est oui. Ce qui a été le plus utile, et c'est un peu triste de le dire, c'est la crise financière en 2008. C'est la crise financière en 2008 qui a permis à ces scandales d'avoir l'écho qu'ils connaissent aujourd'hui. Ça a commencé avec le scandale du Liechtenstein en février 2008. Et pourquoi ce scandale-là a marché médiatiquement? C'est qu'on est après la crise, après le début de la crise des subprimes en août 2007. Et à partir de là, s'enclenche un mécanisme où on a ces offshore leaks, les Swiss leaks, les Lux leaks, maintenant les Panama Papers. Donc on a toute une série de fuites qui remettent un peu d'essence dans le moteur du G20 et d'essence dans le moteur politique, même si, en fait, le moteur politique, il a vraiment démarré avec la crise financière et le ras-le-bol des gens et la crise de confiance qui a nécessité, pour les gouvernements de droite comme de gauche d'ailleurs, de prendre des réactions. Et pour le coup, c'est un domaine dans lequel le G20 a vraiment pris des initiatives et a tapé du poing sur la table et continue de le faire.
De l'essence dans le moteur, c'est aussi utile pour une organisation comme celle que vous représentez, Manon Aubry, c'est-à-dire Oxfam France?
C'est assez intéressant pour nous parce que ça fait de nombreuses années qu'on travaille collectivement avec d'autres ONG sur le sujet de l'évasion fiscale. Et il y a quelques années, jusqu'à vraiment très récemment, on avançait complètement dans l'opacité. C'était assez symptomatique de l'opacité qui règne en matière fiscale. On avançait dans la même obscurité de notre côté, où l'accès aux informations était extrêmement difficile. Et en effet, la suite de scandales fiscaux a permis de plusieurs choses. D'un côté, faire émerger le sujet auprès de l'opinion publique, auprès des journalistes. Le fait que vous dédiez plusieurs émissions longues sur ces sujets-là aurait été complètement inédit il y a une dizaine d'années. Et clairement a permis aussi une prise de conscience de la part du grand public qui, a priori, le commun des citoyens français n'a pas les moyens de créer une société écran dans un pays comme le Panama ou autre, et de bénéficier de ces services-là pour diminuer sa facture fiscale. fiscale. Et d'un autre côté, il a permis aussi de secouer le monde politique pour demander des réponses. Alors, on va peut-être en discuter après. C'est des débuts de réponses. Parfois, on essaie de soigner, on essaie de mettre quelques pansements sans nécessairement s'attaquer aux symptômes. Mais en tout cas, il y a un début de prise de conscience et un début d'action qui est louable et qui aurait été extrêmement difficile sans ces informations-là.
Alors avant de parler de la façon dont on s'attaque aux symptômes et qu'on peut-être les pansements, enfin je ne sais pas si vous considérez qu'il s'agit de pansements, mais c'est vrai qu'il y a eu des réactions assez rapides de la part d'un certain nombre de pays qui ont décidé d'ouvrir des enquêtes. J'évoquais notamment le cas de la justice française qui a ouvert hier une enquête préliminaire pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. Antoine Peillon, est-ce que ça veut dire que sans ces révélations, la justice française ne pouvait pas ouvrir d'enquête parce qu'elle n'en avait pas les moyens ou parce qu'elle n'avait pas les informations nécessaires pour le faire?
Depuis 2012, ce que je constate, c'est que le monde judiciaire est toujours derrière les révélations journalistiques. Alors je l'ai vécu moi-même en mars et avril 2012 sur l'affaire UBS. Il a fallu que le livre paraisse en mars pour qu'une information judiciaire soit ouverte en avril 2012. On l'a vécu ensuite avec mes amis et confrères de Mediapart sur l'affaire Cahuzac. Il a fallu le scandale des révélations d'un journal dans des conditions d'ailleurs extrêmement difficiles d'un point de vue politique et même parfois médiatique pour qu'une information judiciaire soit ouverte elle aussi.
Parce que vous amenez des éléments d'information que la justice ne connaît pas.
C'est-à-dire que, alors, pour ce qui concerne l'affaire UBS, par exemple, la justice avait connaissance, mais la justice, c'est-à-dire le parquet, avait connaissance de ces faits et n'avait pas transmis à un juge d'instruction. Ce qui faisait que l'enquête était morte, disons, dans l'œuf. Pour ce qui concerne l'affaire Cahuzac, non, ce sont des éléments vraiment originaux apportés par Mediapart qui ont permis à une enquête de se déclencher et puis sur la base de ces mêmes éléments d'aboutir à un résultat judiciaire. HSBC, même chose, un lanceur d'alerte, circule pendant plusieurs années, se déclarant en Espagne, en revenant en France, avant qu'il y ait un traitement sérieux et rigoureux des données qu'il apporte, puisque les données qu'il avait apportées initialement à la justice, et c'était à l'époque le procureur de Montgolfier qui avait premièrement traité le dossier, avait été entravé dans leur traitement. Voilà. Pour ce qui concerne les affaires de cette semaine, il est évident que là, ce sont des données qui viennent d'un lanceur d'alerte interne. Aucun enquêteur jusqu'alors ne disposait très certainement de ces données, sauf, et c'est important de le dire, très certainement les services de renseignement. Toutes ces données, toutes ces affaires sont connues dans le détail par nos services de renseignement. Elles n'ont rien à voir avec la vocation de protection de la nation, de lutte contre le terrorisme. Et pourtant, ces données ne sont pas transmises au judiciaire.
Madame Aubry, est-ce que vous êtes surprise par la rapidité avec laquelle les enquêtes sont ouvertes depuis quelques heures, pas seulement en France, d'ailleurs j'ai évoqué un certain nombre de pays où c'est aussi le cas?
Surprise, non, il y a un principe de rationalité de la part du ministère des Finances français qui se dit, on l'a vu avec la réaction de François Hollande, chouette, il y a de l'argent à aller récupérer dans les caisses de l'État. Et donc, si il y a de l'argent à aller récupérer, il faut aller le chercher. Après, la difficulté des enquêtes qui sont menées, c'est que la base juridique est parfois insuffisante pour pouvoir récupérer l'argent nécessaire. Et surtout, les procédures juridiques vont s'intéresser à la fin de la chaîne. Si on imagine les maillons de la fraude fiscale et les maillons qui sont un peu mis en valeur par ce scandale, on voit bien à la fin, on va parler de nouveau Jérôme Cahuzac, etc. Potentiellement, ces personnes-là vont être condamnées, ce qui n'est pas garanti parce que l'État va plutôt négocier une amende pour récupérer le plus d'argent possible. Les condamnations pénales, en pratique, sont très très rares. Et puis, par ailleurs, on va s'intéresser très peu, enfin, je présume, vu ce qui s'est passé pour les derniers scandales, aux autres maillons de la chaîne, aux facilitateurs, aux intermédiaires, à ceux qui ont créé ces schémas d'évasion fiscale et qui les ont proposés à leurs riches clients fortunés. Et ça, c'est un véritable enjeu si on ne veut pas que ce genre de scandale se répète.
On peut peut-être d'ailleurs imaginer, Pascal Saint-Amand, qu'à la faveur de ces révélations et de ces ouvertures d'enquête, certains décident peut-être de devancer l'appel et de se manifester auprès de l'administration fiscale en disant, bah voilà, moi je fais partie peut-être de cette liste et je préfère me signaler plutôt que d'être poursuivi derrière. En tout cas, est-ce que c'est un effet qu'on observe à chaque fois qu'il y a comme ça des affaires d'évasion et de fraude fiscale?
C'est pas lié aux affaires, c'est lié aux progrès généraux qui ont été faits dans la lutte contre les paradis fiscaux depuis 2008. On constate, depuis qu'on a mis en place l'échange automatique de renseignements qui va rentrer en vigueur en 2017-2018, et le standard a été développé en 2014, et tous les pays du monde ont pris l'engagement de l'appliquer, sauf Panama. Panama, le Bahreïn, le Nauru, et je sais plus qui d'autre. Vanuatu, je crois. Mais on a aujourd'hui 500 000 personnes, dans une vingtaine de pays au CDE G20, qui ont déclaré des actifs offshore en vue de la mise en œuvre de l'échange automatique de renseignements. C'est 50 milliards d'euros d'impôts. En ce qui concerne les réactions, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le très court terme, on parle d'actions judiciaires, c'est la moindre des choses. Il y a les actions fiscales. Et là, le CDE a un groupe de travail qu'on appelle JITSIC, ne me demandez pas l'acronyme, mais c'est un groupe de travail des administrations fiscales et des contrôleurs fiscaux qui vont se réunir dans les jours qui viennent. La France en a fait la demande aujourd'hui officiellement à l'OCDE pour partager la banque de données et faire en sorte qu'il y ait des enquêtes fiscales aussi. Et puis, je crois aussi fondamentalement et peut-être plus structurellement, il faut que la réaction du G20 dans 15 jours, il y a les ministres des Finances du G20 qui se réunissent à Washington. Il y a un sommet contre la corruption organisé par le Royaume-Uni le 12 mai prochain par Monsieur Cameron. Il faut que ces instances-là réaffirment de façon très forte la nécessité pour toutes les juridictions d'appliquer les standards et que l'on puisse se concentrer sur ce que l'on appelle les prestataires de services, les cabinets d'avocats, les institutions financières qui doivent appliquer. Les standards, on les a. Il faut qu'ils soient appliqués et il faut mettre l'accent sans aucun doute sur des sociétés comme Mossack Fonseca, mais aussi toutes les banques de manière à ce qu'elles respectent les règles.
Juste un petit mot rapide sur l'échange automatique d'informations. C'est en effet un grand pas en avant, mais pour qu'il soit véritablement opérationnel, il faut que les États incluent également ce qu'on appelle une Competent Authority Agreement, qui est un peu autorisé.
Un accord entre autorités compétentes.
Voilà,
absolument.
Un accord entre autorités compétentes et autoriser en fait en pratique cet échange mutuel de données. Sans ça, c'est un peu comme autoriser quelqu'un à entrer dans notre maison sans lui donner la clé ou sans lui donner le code d'entrée.
Vous avez tout à fait raison. Et aujourd'hui, on a une convention qui est le cadre pour cela. Il y a 96 pays qui l'ont signé. Et les accords entre autorités
c'est
compétentes...
32 pays.
On en est à plus que ça. On en est à 55 aujourd'hui. On aura sans doute les 90 d'ici la fin de l'année. Donc on est vraiment dans la bonne direction et on est en train de mettre en place, au-delà de ça, la tuyauterie. Et c'est extrêmement difficile de mettre en place la tuyauterie pour que tous ces échanges prennent place. On est en train de s'en occuper, donc c'est un travail assez titanesque, mais qui est en train de se passer. Pas assez rapidement, à notre goût, mais qui est en train de se passer.
Et juste pour mémoire, d'ailleurs, cet échange automatique d'informations, c'est quelque chose qui avait été négocié à Berlin fin 2014, et vous étiez d'ailleurs venu nous en parler dans cette émission, Pascal Saint-Amand, c'est-à-dire que c'était un vrai changement, puisque auparavant, c'était sorte d'échange de gré à gré, c'est-à-dire à la demande.
On est passé à l'échange automatique. Et pour qu'on ait l'échange automatique, il faut qu'il y ait des accords juridiques. Ces accords entre autorités compétentes, il y en avait 55 signés à Berlin. En fait, on doit être à 70 et quelques aujourd'hui. Les 32, c'est sur un autre accord d'échange de renseignements sur le reporting pays par pays, qui n'est pas tout à fait la même chose, qui est sur le sujet de l'évasion des multinationales. Mais sur les personnes physiques, il faut des accords juridiques, il faut changer les législations internes de manière à mettre fin aux actions aux porteurs, à mettre fin à ces sociétés opaques, c'est ce qui est en train de se passer, mais hélas pas dans tous les pays. Et enfin, il faut la tuyauterie pour que les informations soient collectées, formatées et envoyées et puissent être lues par les administrations fiscales qui les recevront. C'est beaucoup de travail, on est bien avancé dans ce domaine-là, c'est pour ça que les contribuables sortent du bois.
Antoine Payon.
Enfin là, actuellement en 2016, et sur cette affaire Mossack Fonseca, ce sont, les chiffres sont 14 000 banques, cabinets d'avocats, compagnies diverses et variées, qui sont articulées à Mossack Fonseca. Plus de la moitié d'entre eux viennent de Hong Kong, pour le principal, du Royaume-Uni, Londres n'est pas très loin, et de la Suisse, ma très chère Suisse. C'est chez nous. Ce sont des pays développés, ce sont des pays qui, normalement, devraient avoir les contrôles les plus stricts. Ce sont les pays qui, bien avant le Guatemala, le Brésil, l'Équateur, usent de ces méthodes et de ces outils juridiques pour une opacité criminelle.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
À quoi servent les révélations sur les paradis fiscaux? Nous en discutons ce soir avec le journaliste Antoine Payon, avec Manon Aubry, responsable du plaidoyer justice fiscale chez Oxfam France, et Pascal Saint-Amand, qui dirige le centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Antoine Payon, à l'instant, Pascal Saint-Amand, donc évoquait ces très nombreux établissements qui étaient des clients de cette société panaméenne. Est-ce que vous y voyez indirectement l'effet de l'avancée de la régulation, c'est-à-dire que peut-être que de plus en plus de sociétés ou d'individus qui essaient d'échapper justement à cette régulation se retrouvent dans une société qui relève d'un pays qui est un des très mauvais élèves, on va dire, en matière de paradis fiscal.
Alors, comme Manon Aubry l'a indiqué, c'est pas seulement le Panama, en fait. C'est une société panaméenne qui a incorporé des sociétés offshore dans plein de pays ou dans plein de juridictions, les îles Vierges britanniques. Niue, c'est un rocher au milieu du Pacifique, il y a 1600 habitants, mais il y avait des milliers de sociétés incorporées. Donc on voit que c'est général. En revanche, on voit aussi, quand on regarde les données de près, qu'on a une réduction de l'offshore en nombre. Alors c'est une société, hein. Peut-être que dans d'autres sociétés, on verrait des chiffres inverses, il ne faut pas tirer des leçons trop générales. Néanmoins, on voit que Mossack Fonseca a fermé des sociétés dans des juridictions qui se mettaient à appliquer les standards que nous leur demandions d'appliquer. Et on peut suivre en quelque sorte les avancées du Forum mondial qu'on a mis en place pour vérifier l'application, avec la fermeture de certaines juridictions, de certaines sociétés dans des juridictions, et une concentration largement à Panama. On voit qu'il y a de plus en plus de choses qui reviennent à Panama, qui fait de la pub depuis 2 ans en disant on n'applique pas les standards internationaux, venez chez nous, nous sommes une place opaque, nous considérons la confidentialité comme un droit de l'homme et on la protégera. Il se trouve que Mossack Fonseca là, a un peu raté le coche en termes de protection de la confidentialité de ses clients.
Et qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs contre un pays justement qui refuse à ce point
de la pression internationale? Les États sont souverains. D'accord, c'est la base de la communauté internationale et donc ils peuvent s'opposer, mais comme ils sont souverains, ils peuvent aussi prendre des mesures de rétorsion. Et donc ce qu'on a fait depuis 2008, c'est de la pression politique, c'est organiser une pression politique d'un groupe des grands, le G20, ça représente 85% de l'économie mondiale, c'est un peu injuste d'ailleurs, c'est les grands qui disent aux petits ce qu'ils doivent faire. C'est comme ça que les petits le perçoivent. Ouais, je pense que là c'est pour la bonne cause et ils disent il faut que vous changiez, à défaut de quoi on prendrait des mesures de rétorsion. Ça a marché avec la Suisse, avec le Luxembourg, même avec Hong Kong, hein, on parlait de Hong Kong tout à l'heure, Hong Kong maintenant est en train de mettre fin en droit à l'opacité. Maintenant, est-ce que c'est appliqué en pratique? Et c'est, je crois, le prochain volet sur lequel il va falloir se concentrer. Comment on transforme le droit en pratique?
Maintenant, Aubry, est-ce que vous vous dites il y a quand même des progrès aujourd'hui qui sont faits en matière de lutte contre l'évasion fiscale et contre ces paradis fiscaux, que ces progrès sont peut-être pas assez rapides ou bien que c'est la direction qui est prise aujourd'hui qui n'est pas la bonne?
Clairement, il y a des progrès qui ont été faits parce qu'on revient de très très loin. La difficulté, en revanche, et on le voit, hein, y compris avec ce scandale-là, c'est que les fraudeurs ou ceux qui veulent échapper à l'impôt ont toujours un coup d'avance. Et quand on met fin à un mécanisme facilitant l'évasion fiscale, souvent il est remplacé par un autre. Et la question c'est est-ce que les administrations fiscales, le grand public, les journalistes vont pouvoir courir aussi vite, voire plus vite que les fraudeurs si on veut les rattraper. Et c'est aujourd'hui la vraie difficulté à laquelle nous sommes confrontés au niveau international et qui nécessite une réelle coopération entre les pays, mais qui nécessite aussi une véritable transparence des informations. On le voit à chaque scandale, on a après une série de déclarations politiques, mais on a aussi globalement une pression publique qui augmente parce qu'on se sent tous concernés par ces scandales d'évasion fiscale. Et en matière de transparence, il y a encore fort à faire. Le dernier scandale de LuxLeaks, ce qui était mis en cause, c'était des rescrits fiscaux, des négociations avec l'administration fiscale au Luxembourg pour diminuer sa facture fiscale pour une multinationale.
Voilà, on facilitait l'installation de multinationales. Exactement. Sur le territoire du Luxembourg, ce qui était une forme de concurrence déloyale déjà par rapport aux autres pays, ne serait-ce que ceux de l'Union européenne. Voilà, c'était sur le cœur de ce scandale.
Et 340 multinationales étaient impliquées. Et à la suite de ce scandale, a été décidé au niveau européen un échange automatique de rescrits fiscaux.
En fait, la solution avait été trouvée avant le scandale, puisque à Cairns, en septembre 2014, l'OCDE avait proposé une solution qui était l'échange automatique des rulings, et il se trouve que LuxLeaks est sorti 15 jours plus tard. Donc là, vous voyez, le scandale y est arrivé après coup. Ça a permis au grand public de savoir de quoi on parlait, mais l'accord, il avait été trouvé entre 44 pays, tout l'OCDE et tout le G20, 15 jours avant la sortie des LuxLeaks.
Mais si je peux me permettre, un échange automatique d'informations, que ce soit les rescrits fiscaux, que ce soit les informations fiscales entre plusieurs pays, la question est de savoir que va faire de ces informations le pays d'origine? Un, est-ce qu'il a la capacité de les traiter? Deux, est-ce qu'il a intérêt à les traiter? Et là se pose la question de la nécessaire transparence et publication de ces informations, parce que certains pays qui sont des paradis fiscaux, comme le Luxembourg, font le choix de ne pas traiter ces informations ou de ne pas nécessairement leur donner les suites juridiques nécessaires. Et donc, il y a un pas en avant, clairement, pour commencer à réguler l'évasion fiscale. Il y a encore un autre pas à faire pour que ces pratiques soient véritablement mises à mal par le système international.
J'allais justement vous poser la question, Antoine Payon, de la capacité de ces pays à traiter ces informations.
Mais c'est pas tellement seulement la question de la capacité, c'est la question de la volonté politique. En la matière.
Bah, c'est-à-dire, s'il y a la volonté, il y a la capacité,
mais il n'y a pas les moyens. Il n'y a pas la volonté, il y a même parfois la volonté inverse, c'est-à-dire de ne pas traiter les informations qui sont disponibles. Je pense que M. Saint-Amand doit parfois être confronté à ces attitudes nationales. Parlons de la France simplement. Aujourd'hui, on annonce qu'on réinscrit le Panama parmi les paradis fiscaux. Nicolas Sarkozy avait fait des pressions énormes pour qu'en 2012, c'était à la fin de son mandat, on désinscrive ce pays, notoirement paradis fiscal et judiciaire, au scandale, y compris de Valérie Pécresse à l'époque, ministre du Budget. Et c'est aujourd'hui seulement qu'on le fait à la suite d'un scandale révélé par la presse. Quand vous allez sur le site du ministère des Affaires étrangères, francediplomatie.fr, vous lisez que notre relation bilatérale avec le Panama a pris une nouvelle dynamique après la sortie de ce pays de notre liste des États non coopératifs en matière fiscale. On met entre parenthèses 2012. Nos relations politiques sont dynamiques et marquées par des rencontres de haut niveau. Grand nombre de rencontres, dont rencontre entre le président Varela et le président Hollande à Bruxelles le 10 juin 2015.
Il y en a un paragraphe. Manifestement, ils n'ont pas eu le temps de faire la mise à jour, là.
Écoutez, on lit ça, on se dit ça roucoule. Il faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas, jusqu'à aujourd'hui, dans une mise à l'index à la suite d'éventuels changements de politique à partir de 2012, d'un pays qui est notoirement désigné par toutes les associations et par tous les experts comme un des pires paradis fiscal et judiciaire. Excusez-moi une seconde. Ce que disait M. Saint-Amand tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à partir de 2008, quand il y a eu la crise, et donc la souffrance sociale issue de la crise économique et financière, que la sensibilité du public s'est révélée sur ces questions. J'en étais le témoin, 2012, c'est 600 milliards qui manquent à la France. Ce titre a énormément frappé. Il était parfaitement vrai, mais le rapport a été immédiatement fait par les citoyens entre leur souffrance économique et sociale et le fait qu'une hyper-richesse, pour des montants qui représentent 10% de la richesse mondiale, eh bien, pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur argent sans payer un centime d'impôt. Eh bien, ça n'a pas motivé politiquement une action fiscale et judiciaire plus musclée qu'avant 2012. Je peux vous le certifier. Je suis au plus près ce qui se passe à Bercy. Je suis au plus près à ce qui se passe au parquet. Aucune des grandes affaires de fraude fiscale internationale, affaire Wildenstein, affaire UBS, n'a été traité à partir de la volonté de l'État.
Pascal Saint-Amand.
Alors, moi, je vais apporter un contrepoint positif et optimiste à tout ça, parce que c'est ce que je vois aussi. Et tout à fait honnêtement, moi, je dois reconnaître que et c'est le rôle de la France qui est important aussi là. Aussi bien d'ailleurs sous présidence Sarkozy que sous présidence Hollande. La France a eu un discours constant pour dire il faut avoir des standards qui soient absolument exigeants, qui soient les plus exigeants, le standard d'échange automatique de renseignements. La France a joué un rôle important, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis ont eu un rôle de catalyseur en ayant FATCA, sauf qu'ils ne se l'appliquent pas eux-mêmes.
FATCA, c'était une première législation qui a un petit peu inspiré.
C'est la législation qui a prévu l'échange automatique, mais un peu unilatéral. Mais en tout cas, on a eu, du fait de la crise financière, qui fait que les décisions in fine sont prises en tranchant. Vous faisiez état des relations avec Panama. Il y a plein d'autres enjeux diplomatiques. Il n'y a pas que notre sujet qui est sur la table. Il y a l'élargissement du canal, il y a des Français là-bas, etc., etc. Donc, il faut prendre tous ces sujets-là. Mais quand vous avez la crise et la nécessité de rendre compte aux gens, ben, les décisions sont tranchées. C'est ce qui s'est passé et ça a favorisé cette coopération internationale dont on reconnaît tous qu'elle est absolument nécessaire. C'est ça la solution. Les pays ne peuvent pas faire des enquêtes judiciaires, des enquêtes fiscales. Il n'y a pas des instruments qui leur permettent d'avoir l'information. Et si, et c'est sans doute le grand défi d'aujourd'hui et de demain, si les acteurs privés en charge de manipuler les informations, de créer les sociétés, de transférer les comptes, n'appliquent pas ces règles. Donc il faut des règles internationale, il faut qu'elle soit appliquée dans les droits internes, et il faut ensuite qu'il y ait une bonne régulation de fait, et c'est ça le défi le plus important, je crois. Donc, il y a de la volonté politique. Je crois aujourd'hui, on doit reconnaître les progrès qui ont été faits, parce que sinon, c'est désespérant. Donc, il y a des vrais progrès qui ont été faits, et ils demeurent, et on va voir au G20 dans 15 jours, je pense, une pression encore plus forte sur Panama. C'est vrai que j'étais un peu seul au cours des deux dernières années pour dire Panama, c'est très mal. On va être un peu moins seul.
Manon Aubry, j'évoquais au début de l'émission ce rapport que vous avez publié le mois dernier avec donc Oxfam, le CCFD et Caritas sur l'utilisation des paradis fiscaux par les banques françaises. Qu'est-ce que vous avez d'abord découvert en menant cette enquête et quelles devraient être, selon vous, les conclusions qui devraient être tirées par les autorités politiques et fiscales, disons?
D'abord, un petit mot sur l'origine de l'enquête. On a en fait étudié pendant un an les premiers chiffres rendus disponibles à la suite d'une obligation de transparence qui s'impose aux banques depuis le vote de la loi bancaire en 2013.
Ça, c'est un progrès.
Oui, c'est un vrai progrès de transparence, mais j'insiste, c'est une obligation qui aujourd'hui s'applique uniquement au secteur bancaire. Donc on le sait pas pour, on n'a pas ces informations pour l'ensemble des multinationales. Et on a des informations sur les bénéfices, mais aussi le nombre d'employés et les impôts payés de l'ensemble des banques françaises dans tous les pays dans lesquels elles sont présentes.
Et donc,
on a une idée sur l'activité, sur la déconnexion entre l'activité réelle des banques françaises et les bénéfices qu'elles déclarent dans les paradis fiscaux. Et en pratique, elles ont déclaré pour l'année 2014 un tiers de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. C'est le cas de la Société Générale aussi, qui est mise en cause par ce scandale. Et c'est intéressant pour la Société Générale, parce que le scandale vient confirmer ce que nous, on avait déjà analysé, notamment au Luxembourg, où c'est le premier pays tout confondu dans lequel ils font le plus de bénéfices. Ils font 80% plus de bénéfices au Luxembourg qu'en France, alors que la taille de l'économie luxembourgeoise est plus de 40 fois plus petite.
Alors que c'est loin d'être leur activité principale et que c'est loin d'être l'endroit où ils ont le plus de salariés, c'est ça?
Exactement. Ouais. Et du coup, on nous demande assez régulièrement, mais pourquoi les banques dans les paradis fiscaux, que font-elles? Maintenant, on a une petite idée avec ce scandale de Panama, ce qu'elles font dans les paradis fiscaux. Et si on le relie à notre analyse, on voit qu'en plus, cette activité est extrêmement profitable et bénéfique aux banques qui elles-mêmes alimentent ce système global d'évasion fiscale.
Mais ça n'est pas forcément illégal. Alors qu'est-ce que vous préconisez, vous, justement, pour essayer, on va dire, de faire en sorte que les bénéfices qui soient tirés soient proportionnels au niveau d'activité, au niveau de représentation des salariés de ces établissements?
Alors, plusieurs choses. La première, c'est que d'un scandale sur l'autre, on met souvent en exergue le rôle de ces intermédiaires financiers, des banques, mais aussi des cabinets d'avocats. Parce que là, c'est aussi un cabinet d'avocats. Et donc, il faut s'intéresser au rôle des intermédiaires. En pratique, ça veut dire des poursuites juridiques, pénales, des condamnations financières. Le dernier scandale de SwissLeaks, HSBC s'en est sorti relativement indemne, même s'il y a eu des débuts de poursuites. Et donc, ces données, elles doivent être utilisées par les administrations fiscales en collaboration avec les autres administrations fiscales, ce qui est aussi la difficulté aujourd'hui de collaborer avec des paradis fiscaux, pour véritablement mener des enquêtes et s'intéresser et condamner ces acteurs comme intermédiaires. Mais au-delà, il faut continuer ce vent de la transparence pour avoir des informations plus large sur l'ensemble des activités des multinationales dans les paradis fiscaux. Et c'est un des enjeux, notamment des discussions au niveau européen et en France dans le cadre de la loi Sapin dans les prochaines semaines.
Ces données, elles vous sont utiles, Pascal Saint-Amand?
Oui, enfin, elles sont surtout utiles aux administrations fiscales et aux ONG et aux journalistes qui peuvent faire de la pression. La déconnexion entre la localisation des profits et la localisation des activités, elle n'est pas liée au secret, elle n'est pas liée à notre sujet de ce soir, à l'opacité, aux sociétés offshore. Tout ça est légal et n'a pas besoin de se cacher. Et c'est pour ça qu'on a lancé un autre grand projet, qui n'est pas l'objet de la discussion de ce soir, mais j'y fais référence, c'est la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices, c'est connu sous l'acronyme anglais qui est BEPS, qui consiste justement à réconcilier la localisation des profits avec la localisation des activités. On aura un reporting pays par pays. Le débat devrait-il être public? Et je comprends que certains veulent absolument qu'il soit public. La solution de l'OCDE à ce stade, c'est que c'est pas public. Mais ça permettra de voir où sont les activités, où sont les employés, où sont les actifs et où sont les profits et combien d'impôts sont payés pays par pays. Donc on aura un instrument extrêmement utile pour que les administrations fiscales puissent faire les redressements. C'est l'autre aspect des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est deux volets. Un volet d'opacité, des progrès majeurs ont été faits en droit, il faut qu'il se traduise dans les faits maintenant et qu'il se traduise en droit dans tous les pays, y compris Panama. Et puis vous avez l'autre volet qui est, je peux avoir des structures vides en fait. Je peux avoir une structure qui va être, je peux avoir une personne, on le voit dans l'affaire de Panama, qui va gérer 60 000 sociétés. On voit bien que tout ça est théorique et fictif.
Ce sont aussi des sujets déconnectés pour vous, Antoine Payon ?
Oui, ce sont des sujets complètement déconnectés. Parce que d'un côté, on a ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Ce sont des grands groupes qui ont un chiffre d'affaires et des bénéfices considérables en France et ne payent qu'un impôt minimum en Irlande ou au Luxembourg. Et là, c'est la question fondamentale de l'harmonisation fiscale, les travaux qui sont menés à très haut niveau, au niveau international, européen. Le sujet de
mais
ce soir...
est-ce que œuvrer à l'harmonisation fiscale, ça n'est pas aussi une façon de lutter contre ces paradis fiscaux, même si c'est de manière indirecte, c'est-à-dire si au sein de l'Union européenne il y avait davantage d'harmonisation fiscale, il y aurait peut-être moins justement de...
Franchement, c'est un autre sujet. C'est vraiment un autre sujet et qui a tout autant de gravité, même si en masse financière, ça n'est pas comparable. Le sujet qui nous retient ce soir, qui est celui de l'évasion fiscale clandestine, illégale. C'est un volume qui ne représente pas ce que pourrait représenter l'optimisation fiscale, qui est bien plus considérable, qui est le volume des affaires, en gros, parce que les affaires du monde, aujourd'hui, sont toutes en optimisation fiscale. En revanche, en termes de nocivité sur nos sociétés, en termes de nocivité sur notre sécurité, en termes de nocivité pour notre santé, celle des jeunes, les trafics de drogue, c'est ces dispositifs-là qui alimentent le terrorisme, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains qui est aujourd'hui peut-être le premier revenu criminel dans le monde. C'est là le sujet véritable.
La corruption.
La corruption, bien entendu.
C'est une gangrène pour le développement.
Absolument. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'argent qui sort de ces paradis fiscaux. C'est pas l'argent qui y entre et qui est thésaurisé. C'est à quoi sert-il ensuite? Eh bien, il sort, il sert à ce qu'on peut appeler, vous avez utilisé le mot vous-même tout à l'heure, le mal, ce que tout le monde, de façon réflexe, définira comme le mal. Ce problème-là se réglera avec, bien entendu, tous les progrès que vous animez avec tous vos collègues. Il se réglera aussi par le fait qu'on imposera qu'il n'y ait plus possibilité d'avoir une société écran. Que tout ayant droit final ou premier de quelque société juridique qu'elle soit une fondation, qu'elle soit un trust, peu importe, puisse être connu immédiatement par les administrations. Alors là, je crois que vous pourriez nous éclairer là où nous en sommes aujourd'hui dans les discussions sur cette question des sociétés écrans.
Alors, Pascal Saint-Amand, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et la vraie question, c'est peut-on savoir qui est le bénéficiaire effectif, la vraie personne physique derrière une structure juridique? Alors, les standards qui existent, les règles, elles existent pour la lutte contre le blanchiment d'argent, pour la lutte contre la fraude fiscale. C'est il faudrait que les sociétés d'avocats et les trustees, les fiduciaires ou les banques connaissent le bénéficiaire final des sociétés. C'est en droit le cas dans à peu près tous les pays, sauf quelques exceptions, et on est en train d'y mettre fin. Le vrai défi aujourd'hui, c'est pas de changer le droit, c'était un progrès phénoménal de changer le droit. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est de faire en sorte que ce droit soit correctement appliqué, et là, ça nécessite une régulation très proche, et la difficulté, c'est que lorsque vous avez un gouvernement qui est assez faible ou qui n'a pas envie d'appliquer la régulation, bien les sociétés qui prospèrent dans cet État vont pouvoir faire des choses qui ne vont pas être sous le regard des autres États. Donc non seulement il faut des règles, je crois qu'on les a aujourd'hui, il faut qu'elles soient appliquées en droit. C'est en train d'arriver, il n'y a plus que quelques poches d'opacité, dont Panama est une belle illustration. Il y avait le Delaware aux États-Unis. Les États-Unis ont annoncé la semaine dernière qu'ils allaient mettre fin à cette opacité sans avoir besoin de passer par le Parlement. Ce qui est quand même, et on a vu les projets de régulation, c'est sérieux. Donc ça devrait être un gros progrès. Mais derrière, il faut que les cabinets d'avocats, que les banques appliquent ça correctement. Je crois que c'est le nouveau défi auquel on doit faire face.
C'est la frontière. C'est vraiment la frontière aujourd'hui. C'est ce combat qui doit être acharné de tous pour que le connaît ton client, qui est une règle du monde financier, soit appliquée systématiquement. Que le blanchiment soit impossible. La Suisse a fait beaucoup de progrès en la matière, tout simplement sous la pression de la menace terroriste. Le financement du terrorisme a effrayé tous ceux qui pouvaient être les resellers du financement du terrorisme. Mais d'expérience, je peux vous dire qu'il y a, y compris dans des pays comme la Suisse ou comme le nôtre, il y a beaucoup de progrès à faire sur le connais ton client.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces questions. Antoine Payon, Manon Aubry et Pascal Saint-Amand. Vous savez que cette émission, vous pouvez la réécouter, la télécharger, vous pouvez également également nous rejoindre sur Twitter pour suivre et poursuivre la discussion. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Céline Leclerc, Antoine Tricot, Cyril Baer, Hugo Florent, émission réalisée par Anna El Fakir avec à la prise de son Jacques Zuber. Demain, avons-nous perdu l'expérience de la guerre? C'est la question que nous poserons à partir de 18h20.